Il y a beaucoup de candidats pendant la campagne présidentielle qui aimaient faire siffler les autres candidats. Je pense avoir été abondamment sifflé, peut-être l'un des plus sifflés. Donc les sifflets ne m'ont jamais beaucoup étourdi. Mais j'ai toujours demandé aux gens dans mes meetings de ne pas siffler. C'était des militants. Je peux demander la même chose au maire.
Emmanuel Macron copieusement hué au Congrès des maires le 23 novembre 2017. Emmanuel Macron n'a peur de rien ni de personne. Courageux, habile, séducteur jusqu'à en devenir manipulateur. Technocrate arrogant, entouré de technocrates arrogants. Coupé du pays réel, des corps intermédiaires, incapable de s'ancrer sur le territoire, mais sachant parfaitement conquérir et peut-être, qui sait, conserver le pouvoir. Élu grâce au peuple de gauche, gouvernant résolument à droite, sans que nul ne parvienne aujourd'hui à définir sa doctrine. Voilà qui a été, depuis que cette météorite est entrée en campagne présidentielle et s'est installée à l'Élysée, dit et redit. Les grands reporters au Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, ont néanmoins voulu comprendre et étayer ses analyses. Ils avaient passé de longs mois à recueillir les propos de François Hollande pour en faire un gros livre. Là, ils ont passé de longs mois à recueillir les propos du Tout Paris, qui a le bras long, pour en faire aussi un gros livre. Résultat, 600 pages à la sulfateuse, il faut bien l'admettre, qui pose beaucoup de questions sur ce qu'est une enquête journalistique, ses règles, ses critères, ses objectifs. Car lorsqu'on intitule son pavé « Le traître et le néant », on n'a pas le droit d'accoucher d'une souris.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Et ils sont mes invités ce matin. Gérard Davet, bonjour.
Bonjour.
Fabrice Lhomme, bonjour.
Bonjour.
Le très gros livre, il est là et il se dévore. Le traître et le néant vient de paraître chez Fayard. Pourquoi tous les deux, vous qui êtes journaliste et vous n'en êtes pas à votre premier livre sur la politique, pourquoi un portrait psychologique, pour ne pas dire psychologisant ? Fabrice Lhomme.
Alors, cette somme, parce que c'est vrai qu'il fait plus de 600 pages, oui. c'est un livre épais, touffu, avec beaucoup d'éléments. Il y a une partie qui peut relever éventuellement de la psychologie qui concerne la personnalité du président de la République. À partir du moment où on voulait essayer de révéler qui est cet homme et quelle est sa politique, il fallait en passer aussi par là. Mais je pense que la plupart, j'allais dire, des révélations ou des nouveautés qu'on peut amener sur des affaires particulières ou sur des interviews chocs qu'on a pu recueillir, pour le coup, ne relèvent pas seulement de la psychologie, mais relèvent simplement de la marche de l'État et de l'ascension d'un homme qu'on essaie de restituer dans le détail, en apportant, je crois, des éclairages nouveaux. Et pour répondre aux deux questions qui nous ont travaillé tout le long de cette enquête, et je pense qu'on apporte les réponses à ces deux questions qui sont qui est Macron exactement et qu'est-ce que le macronisme. Et je pense que ce sont deux questions qui parcourent j'allais dire l'esprit de la plupart de nos concitoyens.
Qui est Macron? Est-ce que c'est un type bien? Est-ce que c'est un mec gentil? Est-ce que c'est un homme humble? Est-ce que c'est un homme loyal? Est-ce qu'on se demande, Fabrice Lhomme et Gérard Davet, si Pompidou était arrogant? Est-ce qu'on se demande si De Gaulle ne se sentait pas un peu tout puissant? Si Mitterrand n'était pas tort, si VGE n'était pas narcissique, pour employer des qualificatifs que vous utilisez et qui reviennent souvent dans votre enquête, si l'un de ces présidents français avait une gestuelle insincère, si l'un était autoritaire, si l'autre était vertical. Je vous dis franchement, qu'est-ce qu'on en a à cirer si on ne se demande pas si ces gens-là, on a envie de les avoir comme beaux-frères, on se demande s'ils ont la dimension d'un homme d'État.
Mais simplement, chacun se pose des questions qu'il a envie de se poser. Nous, on se pose ces questions-là. Parce que si on parle par exemple de l'arrogance, je prends juste un exemple. Hein, l'arrogance qui est reprochée à Macron, pas par nous, par les 110 témoins qu'on a interrogés quand même. Et ça revient, mais systématiquement. Et c'est pas seulement l'arrogance du président de la République. C'est aussi l'arrogance d'une partie de son entourage. Mais c'est totalement fondamental de comprendre les implications que ça a sur la politique qui est menée. La déconnexion d'une grande partie des citoyens avec ce pouvoir-là, et même avec la politique. C'est arrivé sous Emmanuel Macron. Prenez les résultats des dernières régionales, le taux de participation qui est hallucinant, on n'a jamais vu ça. Deux Français sur trois n'ont pas été votés. Il y en avait deux fois plus aux régionales précédentes. Tout ça a un sens. Quand on parle du néant, on parle du chaos qui s'est installé. Macron n'est pas le seul responsable, on l'écrit d'ailleurs, mais il en a profité de ce chaos, il l'a même nourri pour prospérer en quelque sorte sur le vide.
Alors vous parlez justement
violence, elle est emblématique, elle est importante à mettre en lumière.
De ces 110 personnes que vous avez interviewées, qui sont constitutives, c'est votre matériau, hein, et on va en reparler, ce qu'en pensent les autres, hein, c'est quelque chose qui revient en permanence dans votre enquête. La veuve de Michel Rocard vous dit « je ne voterai jamais pour lui ». Ségolène Royal vous dit « je vous préviens, c'est pas un type bien ». Fleur Pellerin vous dit « je l'ai toujours trouvé fake », c'est-à-dire faux. Mais moi j'ai envie de vous dire « et alors ?» Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que Fleur Pellerin pense d'Emmanuel Macron ? Rachida Dati vous prévient, attention, il n'est pas gentil. Rachida Dati, comme si elle était le maître étalon de la gentillesse.
Oui, mais ouais. Je suis tenté de vous dire, Sonia, et alors ? C'est-à-dire que tous les livres sont faits à partir justement. De ce qu'ont eu à connaître les gens qui ont fréquenté Macron, là on parle de Macron, mais c'était pareil sur Hollande et autres, de ce qu'ils ont eu à connaître de lui et de ses actes. Et si vous voulez, à partir du moment où on fait une enquête autour de quelqu'un, il faut bien que les autres qui l'ont connu nous racontent leur Macron, ce qu'ils ont connu de lui et ses actes. Quand Dati en parle, elle en parle en connaissance de cause, on peut penser ce qu'on veut de Dati. En attendant, elle a le droit d'avoir une opinion sur les choses et sur les gens. C'est valable pour tous les autres. Ségolène Royal a travaillé avec Macron, elle sait qui il est. Vous parliez de qui d'autre de...
Bah, je sais pas, moi, par exemple. Stéphane Bern n'a pas de mots assez durs pour qualifier les conseillers du souverain. Stéphane Bern.
Oui, mais et alors ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'on doit disqualifier les gens en fonction de ce qu'ils sont, parce qu'ils montent sa tête à la télévision dans une émission sur l'histoire, il n'aurait pas le droit d'avoir un avis sur quelqu'un qu'il a contribué à faire émerger. Moi, je pense que c'est disqualifier les gens, c'est encore pire.
Et est-ce que vous qui bossez
dans
depuis 15 ans...
Dans notre livre, on ne disqualifie personne.
Personne, ça c'est personne. Clair. Est-ce que vous qui bossez depuis 15 ans sur la politique, là vous égrenez une quantité astronomique de gens qui démolissent Macron, la personnalité, le bilan.
Mais pas que, Sonia pas de Villers. Je suis désolé, il y a énormément de macronistes ou macroniens, je ne sais pas comment on les appelle, qui s'expriment dans ce livre et qui, eux aussi, ont des mots durs vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Je suis désolé, c'est important d'avoir ces gens-là. Alain Minc, Jacques Attali, ils sont quelques-uns, Aurore Berger et d'autres, ils sont quelques-uns à dire ce qu'ils pensent de leur Macron, et c'est pas toujours extrêmement agréable.
Est-ce que vous diriez que c'est un homme qui est plus détesté aujourd'hui que d'autres hommes ou d'autres femmes de pouvoir ? Puisque cette accumulation est la colonne vertébrale de votre ouvrage.
Alors, je pense qu'effectivement, ce n'est pas neutre si ressort de notre enquête beaucoup de témoignages qui sont très virulents à l'endroit d'Emmanuel Macron. Et nous, ce qui nous a frappé, c'est que cette virulence, elle rencontre ce qu'on voit dans l'opinion publique, c'est-à-dire quelqu'un qui a une cote de popularité plus que respectable, mais qui est très clivant, un petit peu comme l'était Nicolas Sarkozy, c'est même peut-être encore pire en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il a son bastion de soutien qui reste à 20%, 25% suivant les études, mais toutes les autres personnes, pour la plupart, le détestent vraiment, à juste titre ou à tort. Nous, c'est pas nous de juger. Ouais. Mais nous, on doit restituer, si vous voulez, ce qui se passe dans la société, tout simplement. Et on trouvait frappant que dans la classe politique, il y ait cette telle volonté, que ce soit à droite, à gauche ou des centristes, etc., de rabaisser un petit peu Macron, de le faire tomber de son piédestal. Peut-être qu'il a été justement trop arrogant, peut-être qu'il a trop fait la leçon, il a énervé beaucoup de gens. Mais nous, on n'est pas là pour juger ça. Non. Nous, on est là pour restituer. Et ça, c'est pour le coup, c'est pas fake. Ce qu'on restitue. Et comme le disait Gérard, nous, ça nous a frappé le nombre de proches de Macron, des Castaner, des Guérini, des Aurore Berger, etc., qu'on fait parler longuement, ou des Sibeth Ndiaye, eux-mêmes, ou elles-mêmes, parfois, ont des propos assez critiques sur
Emmanuel
Macron.
Je me suis demandé, en fait, si cette enquête, en tout cas une grande partie de cette enquête, quand vous faites le portrait d'Emmanuel Macron, que vous fouillez encore son parcours, son échec à Normal Sup, la faille narcissique, l'échec à Normal Sup, son ascension, la conjuration, comment il a planté un couteau dans le dos de Hollande, c'est quand même une grande, grande partie. Je me suis demandé si c'était pas le livre d'il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous essayez de comprendre les ressorts d'un homme qui est au pouvoir depuis 5 ans. Cet homme, il a un bilan. Il a un bilan. À quoi ça sert d'écrire encore aujourd'hui, 5 ans après, alors que cet homme gouverne la France ? Comme le dit François Baroin, c'est quand même très douteux. Il n'a pas d'enfant. C'est quand même bizarre, les gens qui n'ont pas d'enfant. 5 ans après, il est à la tête de la France. C'est la France qu'on a envie aujourd'hui de passer au script et de sculpter, pas ce qu'en disent son entourage sur « il a des enfants, il n'a pas d'enfants, c'est douteux, c'est pas douteux, Fabrice Lhomme ».
L'un n'empêche pas l'autre.
L'un n'empêche pas l'autre.
D'abord, nous, notre travail de journaliste, c'est aussi d'éclairer le passé. Quand on a fait surtout quand il est récent, quand on a fait le livre sur le quinquennat Hollande, il parlait de tout le quinquennat, il parlait de la conquête du pouvoir par Hollande, et personne n'a été surpris. C'est l'inverse qui aurait été choquant. D'autre part, il faut pas oublier que le journalisme, c'est choisir. Nous, on a choisi un angle. Ouais. On n'a pas fait un livre bilan du quinquennat. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui l'ont fait et qui vont le faire avec sans doute plus d'informations et de talents que nous. Nous, notre rôle principal, on est d'abord des enquêteurs, c'est de fouiller les coulisses, d'aller voir, d'explorer les zones d'ombre. Et il nous semble toujours d'ailleurs que le macronisme et Emmanuel Macron recèlent de nombreuses zones d'ombre.
Un exemple tout bas sur la bienveillance, pour parler du passé. Il a construit sa campagne présidentielle, la précédente, sur la bienveillance. Et son image, il continue à ressortir des aspects bienveillants. Nous, dans ce livre, on révèle à travers des témoignages de gens justement qui ont eu à connaître de cette supposée bienveillance, qu'il n'est pas bienveillant du tout. Et moi, je trouve ça extrêmement important. On a quelqu'un qui dirige l'État, qui va probablement se représenter pour diriger à nouveau cet État. Il est important et essentiel. Peut-être on aurait dû faire ce travail encore plus tôt, mais on était occupé sur autre chose. Mais objectivement, encore maintenant, il est important de comprendre que la bienveillance n'existe pas en Macronie. Ça n'existe pas.
C'est ça. Mais moi, voilà, ce qui m'a surpris, c'est que je me suis dit, allons voir la France. Au bout de 5 ans, allons voir la France, allons voir l'Europe. C'est une action politique. Et une action politique, elle se juge dans les hôpitaux, sur les marchés financiers, dans les champs de patates, sur les chalutiers, dans les camps migrants, dans les
universités.
Ça, c'est d'autres livres,
Sonia. D'accord. Nous, notre enquête, c'est Macron. Et le macronisme.
Et le macronisme. Voilà. Et les coulisses, vous l'avez dit. Ce que j'aimerais... vous mettez beaucoup en scène votre façon de travailler. Ça, c'est une habitude. Vous rappelez sans cesse les règles que vous respectez, que vous imposez. Hein, parce que tout le monde ne travaille pas comme vous. Vous avez vos règles à vous. Vous dites, par exemple, que lorsque vous interviewez quelqu'un, vous l'enregistrez. Comme ça, il n'y a pas de discussion sur ce qui a été dit pendant l'entretien. D'ailleurs, Jean-Louis Borloo vous enregistre aussi. C'est dire... Si la confiance en vous, vous citez tout ce que les gens vous disent, vous ne citez jamais les gens des proches du dossier, c'est-à-dire il n'y a jamais de off dans vos bouquins, en gros, c'est ça.
Jamais de citation anonyme. Et je trouve parfois curieux qu'on nous dise c'est nos méthodes à nous, comme si on était un peu des extraterrestres et qu'on fonctionne bizarrement. En fait,
parce que des citations proches du dossier, il y en a partout dans tous les papiers.
Oui, mais je pense que la bonne règle, ça devrait être l'inverse. Ça me paraît quand même plus sain de citer les gens qui parlent plutôt que de faire des citations anonymes. Prenons l'exemple. Faisons une comparaison avec un dossier judiciaire. Je trouverais gênant qu'un dossier judiciaire qui m'accuserait, par exemple, soit composé uniquement de lettres anonymes. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Je trouve que c'est une mauvaise méthode. Mais... citer les gens en les enregistrant avec leur autorisation, ça permet d'une part pour le lecteur de s'assurer que ce qu'il lit, c'est la vérité. Ça, c'est un point important. Mais il n'y a pas que ça. La personne que vous interviewez, elle a la garantie que ses propos ne seront pas déformés. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Donc, c'est un service, j'allais dire, qu'on rend au lecteur, qu'on se rend à nous-mêmes parce que c'est plus simple, et enfin qu'on rend à la personne interviewée.
Prenons le cas de Jean-Louis Borloo dont vous parliez. Jean-Louis Borloo nous enregistre et il nous demande aussi, en plus, de ne pas citer ses propos. Donc on ne cite pas ses propos. Vous ne trouverez pas de propos de Jean-Louis Borloo attribués à Jean-Louis Borloo, etc. On les a pris dans d'autres interviews, etc.
Alors c'est ça qui m'intéresse, justement.
Il nous a parlé longuement.
Évidemment, vous parlez encore à François Hollande. Évidemment, vous parlez à Nicolas Sarkozy. Évidemment, vous parlez à Jean-Louis Borloo. Évidemment que tout ça pèse dans ce livre. Donc en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez hypocrite en disant on ne le cite pas, mais ça pèse, ça nourrit votre analyse, ça nourrit tout un tas d'envolées qui sont sous vos mots, d'envolées lyriques qui sont sous vos mots, sous votre plume à vous, sans être entre guillemets. Donc en fait, ils sont ultra présents. Vous parlez beaucoup à Mathieu Pigas, co-actionnaire du Monde. Vous avez dû parler à Xavier Niel. Lui, il n'est pas cité. Il est là, forcément, dans le livre.
Mais quel est le problème?
Je vous pose la question. C'est pas un problème. Quelle est la part des gens qui ne sont pas cités?
On a plus de 110 personnes qui nous parlent. Donc, Xavier Niel nous a parlé.
Voilà.
Mathieu Pigas nous a parlé. Il y en a un qui souhaite ne pas être cité, Xavier Niel. L'autre qui a accepté de citer, Mathieu Pigas.
Ouais.
Nous, on respecte les règles toujours. Donc, ce qui explique qu'on a encore beaucoup de personnes qui nous parlent parce qu'ils savent qu'on est tout à fait irréprochable sur ce point-là. Et évidemment qu'on se nourrit des interviews qu'on a. Mais, qu'est-ce qu'on fait quand François Hollande nous parle? On vérifie. Tout simplement, on vérifie ce qu'il nous dit pour savoir si ça tient la route ou pas. Tout président qu'il a été, on vérifie tout ce qu'on nous dit. Et évidemment que ça irrigue notre pensée, mais il n'y a pas que ça. Quand on va voir Aurore Berger, par exemple, c'est tout à fait intéressant. Aurore Berger, députée macroniste, elle nous explique la substance même du macronisme, en tout cas la substance du macronisme parlementaire. C'est très intéressant parce que effectivement ça nous permet d'avoir un point de vue plus équilibré, plus nuancé sur ce qu'on d'autres pouvaient avoir comme sentiment. Par exemple François Bayrou, quand il nous parle de l'AREM, c'est terrible ce qu'il dit sur l'AREM.
Hein.
François Patriat aussi, qui est un macroniste, etc. Et ben tous ces gens-là on a contrebalancé avec ce que nous dit Aurore Berger, Pierre Persson et d'autres, parce que...
Marlène Schiappa,
parce que je pense que c'est le ressort même de ce qu'on fait. Aller chercher beaucoup d'informations et d'événements, faire parler les gens.
Alors, beaucoup, justement, il y a énormément de choses et on ne peut pas s'arrêter sur tout. Moi, je dirais qu'il y a quand même deux révélations, ou en tout cas, vous soulevez le tapis sur deux affaires graves et importantes, et en tout cas, très graves. L'idée qu'à l'Élysée, on se mêle directement du sort et de l'avenir de la presse et des journaux en France, en tout cas du premier quotidien français qui est Le Monde, puisque vous suggérez, voire vous écrivez noir sur blanc, que la détestation entre Emmanuel Macron et Mathieu Pigasse, qui lui aussi est banquier d'affaires, qui a 10 ans de plus qu'Emmanuel Macron, qui, je rappelle, est copropriétaire du Monde, est telle que l'Élysée aurait influé sur la banque qui couvrait jusqu'à présent les dettes de Mathieu Pigasse. C'est très grave. Si
oui,
c'est vrai,
alors,
c'est très grave.
Soyons plus précis que ça. Ce qu'on explique, c'est que Mathieu Pigasse, qui est donc le rival historique, on va dire, d'Emmanuel Macron, c'est les deux banquiers d'affaires qui avaient des ambitions politiques, Mathieu Pigasse est persuadé que l'Élysée, effectivement, était à la manœuvre pour on va dire, convaincre la Banque Palatine, en l'occurrence, de le lâcher, hein, pour résumer.
Ce qu'il a obligé à vendre une partie de ses parts dans Le Monde.
Exactement. Maintenant, il faut, pour comprendre ça, d'abord, c'est sa conviction. Nous, on est très prudents là-dessus. On a donné la parole à la banque, aux banquiers, etc., qui contestent. Ce qui nous intéresse, c'est principalement le fait que Mathieu Pigasse puisse avoir ça en tête, parce qu'encore une fois, c'est révélateur. Et on ne peut pas comprendre cet épisode si on ne revient pas au rachat de notre propre journal en 2010, lorsqu'Emmanuel Macron propose ses services, on va dire, bénévolement et généreusement à la Société des rédacteurs du Monde, qui cherchait un repreneur pour le journal, et qui, en fait, conseille en sous-main, de manière occulte, l'un des repreneurs potentiels. Et cela sans avoir, en ayant caché son jeu. Ça a rendu dingue Mathieu Pigasse, et pas seulement Mathieu Pigasse, beaucoup de gens au Monde, à juste titre. Et donc, tout ça pour dire qu'on n'est pas dans l'anecdote. On est dans...
Ça, j'ai pas dit que c'était dans l'anecdote, voilà. En effet, c'est très grave. C'est vrai, c'est très grave. Mais ce que je trouve dommage, c'est que vous n'alliez pas au bout de l'enquête pour le valider ou pour l'invalider.
On a posé la question très clairement à Emmanuel Macron, qui n'a pas souhaité nous répondre, et on a essayé de vérifier tant qu'on a pu de tous les côtés possibles. C'est compliqué, c'est donc la conviction absolue de Mathieu Pigasse.
Entre autres affaires extrêmement graves, Éric Dupond-Moretti aurait été nommé garde des Sceaux, c'est-à-dire entré au gouvernement, il est avocat, au fond, pour rendre service au réseau sarkozyste, à la veille des procès, des nombreux procès, des multiples procès dont va faire l'objet Nicolas Sarkozy. Alors, là aussi, c'est très grave.
Oui, alors cette présentation, c'est un peu un raccourci. On n'écrit pas ça comme ça. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il a nommé Dupond-Moretti pour plusieurs raisons, notamment pour satisfaire un de nos témoins qui dit ça. Il appelle ça le quota gilet jaune. Roselyne Bachelot, Éric Dupond-Moretti, des gens qui sont plutôt grande gueule, qui ont plutôt une image, qui sont très connus du grand public, etc. Je pense que c'est un des aspects incontestables de la nomination de Dupond-Moretti, et personnellement, je ne trouverais pas ça choquant.
Vous écrivez noir sur blanc que vous allez révéler les dessous de cette nomination, et que cette nomination met au grand jour les liens et la proximité entre la Macronie et les Sarkozy.
Et ça, c'est le second point. Voilà. C'est-à-dire que, depuis que Dupond-Moretti est là, il y a une reprise en main, une tentative de reprise en main de la justice financière à travers le parquet national financier qui est déstabilisé de l'intérieur, parquet national financier qui gère la plupart des procédures visant Nicolas Sarkozy, et Dupond-Moretti qui avait, en tant qu'avocat, déposé plainte contre les membres de ce parquet financier visant notamment donc les magistrats qui enquêtaient sur Nicolas Sarkozy, une fois ministre de la Justice, en plein conflit d'intérêts, fait la chasse à ces mêmes magistrats. C'est tellement grave que ça lui a valu d'être mis en examen. Il est présumé innocent, bien entendu, mais il est mis en examen par la Cour de justice de la République pour ces faits. Et le fait qu'il soit toujours ministre de la Justice reste quand même, de notre point de vue, un problème, même s'il est innocent, bien entendu.
Ça montre le rapport aussi d'Emmanuel Macron à cette pression extérieure qui est celle des médias ou celle de la justice. Il n'en a que faire. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Ça dénote une façon d'être et de faire. Comme pendant le Covid, d'ailleurs, si je peux me permettre, dans le Covid, cette façon de faire qui est la sienne, qui est de conserver toujours le secret sur tout ce qu'il fait, conseil de défense systématique, donc aucune trace, aucun checking de ce qu'il a pu faire durant la crise du Covid, c'est un énorme problème démocratique.
Le traître et le néant, 600 pages, vient de sortir. Et on a parlé, mais alors, que de très, très, très peu de choses. Il n'y a que 18 minutes dans cette émission et il y a 600 pages dans ce bouquin. C'est sorti chez Fayard et ça se dévore. Merci beaucoup, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Bonjour, Ali Rebéi.
Bonjour, Sonia De Villers. Ce matin, comment faire face à l'inceste? N'hésitez pas à témoigner. Vous pouvez le faire de façon anonyme au 01 45 24 7000 ou en nous laissant une note vocale sur l'appli France Inter.